C'est bon, ça marche.
Ok, donc ce soir, tu enregistres là?
J'ai lancé le son, ouais.
Bon,
ouais, j'ai lancé.
Là?
Ouais.
Ok, donc ce soir, 9e cours, 9e fois de Shabbat, et le cours est offert à nouveau par la famille Zerbib, que je remercie infiniment. Pour le Zivou bienfait de Yoni Fitoussi Ben Solange Ruth.
Bonsoir à tout le monde, Shavua Tov. Et la semaine dernière, on a étudié la Melacha de Zoréa, la deuxième Melacha. Alors on va faire un petit récapitulatif, on va résumer un peu et on continuera en avance. Alors la semaine dernière, on a étudié comme ça. Melechet Zoréa, c'est la deuxième Melacha, action interdite, qui figure dans les 39 Melachot de Shabbat. On a expliqué la définition, comment on définit chaque Melacha. Définition de Melechet Zoréa, c'est agir directement sur une végétale, toute plante, ou même sur une graine, ou même sur toute chose qui est végétale, directement pour favoriser la poussée de ce végétal. Toute action que je vais faire pour favoriser la semence, je veux faire une action directe sur le végétal, c'est Melechet Zoréa. C'est pas seulement planter, c'est toutes sortes d'actions. On a vu par exemple planter une graine, planter un arbre, on a vu élaguer un arbre, couper les branches, ça va aider à faire pousser des meilleures branches, des meilleurs fruits. On a même vu si on enduit un arbre, ou un arbuste, ou toutes sortes de plantes, on enduit de toutes sortes d'insecticides, toutes sortes de produits qui vont pas favoriser la semence, mais qui vont aider à toutes sortes de bêtes de ne pas venir. Donc, je favorise. Même si mon action, elle est pas positive, elle est plutôt négative, c'est-à-dire j'empêche des choses extérieures de venir abîmer ma plante, ma plantation, mon végétal, mais ça a un but de favoriser la semence. Donc ça rentre dans la définition, et c'est une melacha de Zoréa. Même, on a vu envelopper des fruits, si on a des fruits sur un arbre, envelopper les fruits de plastique pour les garder, pour les préserver. Toute action que je fais, qui a pour but de favoriser la poussée de quelque chose de végétal, c'est un interdit de la Torah qui s'appelle Melechet Zoréa. On a vu aussi arroser. D'accord? Arroser une surface où on a semé. Donc arroser, pareil, de l'eau, ça va favoriser la semence. Pour planter, on a vu toutes sortes de choses. On a vu qu'il faut faire attention de ne pas jeter des graines. On a vu plusieurs différences. Si c'est un poulailler pour donner à manger et qu'il y a juste la quantité qu'il y a pour les poules, on a le droit de jeter là-bas. Si c'est un endroit où les gens passent, on a le droit de jeter là-bas parce que les gens qui vont marcher dessus, ça va empêcher de faire germer ces graines-là. Mais un terrain où il n'y a personne qui marche, il n'y a pas de poules là-bas qui mangent, de jeter, même si mon intention n'est pas de semer, peu importe, l'acte est interdit. Donc on ne peut pas jeter toutes sortes de graines sur de la terre, de peur que ça va prendre racine et ça va se développer. Ensuite, on a vu même, pas seulement sur de la terre, il y a l'action de Zoréa, même dans de l'eau. Alors là, on a vu plusieurs choses. On a vu plusieurs sortes de choses qu'on met dans de l'eau. Si ce sont des choses qui vont germer dans l'eau, on a par exemple donné un grain d'avocat qu'on met dans l'eau, il va avoir une genre de petite plante, même s'il ne va pas avoir un arbre qui va pousser là-bas, mais au moins ça va germer, ça va faire pousser des choses, ça rend dans l'interdit. On a vu les fleurs. On a parlé des fleurs aussi dans l'eau. Si c'est des fleurs qui sont déjà épanouies, ou bien on va dire. Pardon? Si c'est des fleurs qui sont déjà épanouies, qui sont déjà ouvertes, ou bien on va dire toutes sortes de plantes, on va dire des plantes comme par exemple de la myrrhe, du hadas, toutes sortes de choses de bessamine qu'on sent qui sont déjà complètement développées et qui ne vont pas continuer à se développer, ça a tout à fait permis de mettre dans un bocal d'eau. Parce que là, il ne va pas avoir de pousse. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle maintient la fraîcheur des fleurs ou la fraîcheur des plantes. Donc quand il n'y a pas du tout de terre et il n'y a que de l'eau, ça sera permis dans un cas où ça juste ça maintient la fraîcheur de la chose. On a dit vaut mieux éviter lorsque les fleurs ne sont pas développées, lorsqu'elles sont encore fermées, vaut mieux éviter de ne pas les mettre dans l'eau pendant Shabbat. Celui qui fait ça, on ne va pas dire qu'il fait un interdit, on va dire qu'il a sur quoi se tenir. Mais le khatrila vaut mieux éviter quand les fleurs ne sont pas développées, on a expliqué ça la semaine dernière. Ensuite, on a parlé, tout ça c'est dans le planter. Ensuite, on a parlé dans l'action d'arroser. Arroser une surface où il y a une graine. Quand j'arrose, je permets, j'améliore, je favorise la semence des graines. Donc on a dit faire attention au pique-nique, ne pas faire un pique-nique sur une surface où il y a du gazon, où il y a de la terre, parce qu'on peut très, on peut dire que c'est sourd, mais on est très amené à faire renverser là-bas de l'eau, des graines. Et on a parlé de l'urine. Uriner sur une surface où il y a des graines, ça ne favorise pas la semence, ça brûle les semences. Donc quelqu'un qui est en pleine route et qui n'a pas trouvé de toilette publique, il peut uriner sur une surface de terre, même où il y a du gazon, même où il y a des plantes, ça ne favorise pas la semence. On a parlé de vin aussi, pareil. D'accord ? On a parlé aussi de l'arrosage automatique, c'est-à-dire l'arrosage qu'on allume, toutes sortes de jets comme ça, qui sont automatiques, qu'on allume avant Shabbat. Du moment que je fais mon action avant Shabbat et que ça continue pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Toutes les 39 melachot qui sont interdits le jour du Shabbat, c'est interdit de les faire pendant Shabbat. Si je les commence avant Shabbat et que ça continue, même si j'ai une intention que ça continue pendant Shabbat, avec quand je fais mon arrosage, je mets en place quelques minutes avant Shabbat, mon but c'est que ça va s'arroser pendant le Shabbat. Donc l'action va se faire pendant Shabbat. Mais le début de l'action qui est essentiel est fait avant Shabbat, c'est bon, c'est permis. On a vu aussi qu'on peut aussi fermer le robinet. D'accord ? Fermer, on a dit que c'était mieux de fermer le robinet central. Donc quand on ferme un robinet, donc arrêter l'arrosage, c'est aussi permis. Il n'y a aucun interdit d'arrêter un arrosage. Le problème de l'interdit, il est juste de mettre en route l'arrosage pendant Shabbat. Et on s'était arrêté sur... ça c'est en très bref le résumé de la Melacha de Zoréa. Top. Et du coup enregistré, écoutez bien en détail tout ce qu'on a vu. Maintenant, on s'est arrêté sur le sujet de quelqu'un qui a un lavabo et qui, on va dire, qui veut se laver les mains, qui veut faire sa toilette, et tout le monde est chaleureux. Et l'eau rentre, passe par le siphon et il y a un tsinor, il y a un tuyau qui va sortir, d'accord, il y a un conduit qui va aller dans la maison et qui va sortir et qui va donner directement sur un étendu où il y a du gazon, où il y a des plantes, où il y a de la terre. Et donc on rentre dans un problème de zoréa. On a dit arroser ses zoréas. Est-ce que c'est moutard, est-ce que c'est permis d'utiliser ce robinet ou pas? Pour l'instant c'est clair, est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelque chose de pas compréhensible? Allô? Non, je demande, est-ce que pour l'instant c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises la semaine dernière? Est-ce qu'on peut continuer, c'est-à-dire?
Non.
Pardon?
Non.
Je n'entends rien.
T'as dit c'est clair.
Ah, c'est clair. Top. Yofi, on continue. Donc maintenant on parle d'un robinet. Alors, avant d'arriver à cette explication de ce robinet-là, et je voudrais m'avérer d'abord, est-ce que vous avez écouté le cours numéro 7? J'ai enregistré un cours il y a 2 semaines, un cours numéro 7, où là-bas on a expliqué, c'était le dernier cours en fait de l'introduction, des cours de la série de cours d'introduction, et on a expliqué la 8e condition là-bas. On a expliqué le principe de d'avoir chez Nomit Kaven, avoir une pensée, psychréché. Est-ce que vous avez écouté ce cours là?
Hein? Je ne l'ai pas entendu, mais il y a des choses que je sais déjà. Je n'ai pas toujours le temps de tout écouter, mais je vous écouterai volontiers.
Non, mais parce que pourquoi je pose cette question? Parce que là-bas, il y a une notion que j'ai développée. Ce n'est pas un cours que j'ai donné par Skype, c'est un cours que j'ai donné par audio et que j'ai enregistré. C'était le numéro 7, le 7e cours, comme il n'y avait personne ce soir-là. Et là-bas, j'ai développé une notion qui est très importante, qu'on va utiliser tous les cours. Donc si là maintenant je veux utiliser cette notion pour expliquer cette halakha. Alors si je commence à expliquer et que vous n'avez pas écouté ce cours, donc vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que vous avez écouté ce cours? Le cours numéro 7.
Non, pour Yona, je n'ai pas entendu.
Je n'ai pas entendu. Et les autres, j'entends que Yona pour l'instant là. Qui c'est qui est encore en ligne à part Yona? Hein?
Allô? Vous avez écouté le cours numéro 7?
Non, j'ai pas eu le temps de l'écouter.
Ah. Qui c'est qui est encore en ligne à part Yona? Que je cherche maintenant qui c'est qui m'écoute. Hein. Il y a Daniel? Il y a
Gad, Raquel, Yona et Daniel, on essaie de la reconnecter.
Donc on est trois, on est Gad, Raquel et Yona. Donc vous n'avez pas écouté ce cours numéro 7. Donc alors je veux juste dire la phrase sans expliquer. Parce que je ne peux pas maintenant commencer à expliquer toute cette notion, ça va nous prendre tout le cours. Donc, je veux juste vous dire la halakha, et lorsque je m'avérerai que tout le monde ait bien écouté ce cours, on pourra expliquer. Parce que c'est une notion qui est assez complexe, il faut bien écouter. Là, on a, j'ai bien développé dans le cours, qui m'a tout le cours, il parle de ça. C'est dans les conditions, c'est dans les sujets, c'est pas dans les melachot. On est déjà la deuxième melacha maintenant. Mais dans les introductions, on a fait toute une série de cours d'introduction avec des notions là-bas. Et des conditions, si vous vous rappelez. On a vu toutes sortes de conditions, on a vu 8 conditions pour qu'un interdit soit un interdit par la Torah. Là-bas, la 8e condition, elle est assez détaillée, et on a bien expliqué là-bas des notions de psychréché, nichalé, lo nichalé. Donc lorsque vous écouterez ce cours, je pourrai plus vous développer. Aujourd'hui, je veux juste dire, là, on va l'utiliser par exemple, cette notion aujourd'hui, on va l'utiliser à 2 reprises. Donc si la notion n'est pas intégrée, vous n'allez pas comprendre l'explication. Donc je vais vous dire juste la halakha, sans explication. D'accord ? Et lorsque tout le monde va écouter bien, et là je pourrais expliquer en détail. Donc on revient à notre histoire de robinet. J'ai un robinet. Alors d'abord il y a 2 sortes de robinets. D'accord ? Je suis dans Zoréa. Zoréa ça veut dire que j'arrose. Alors il y a 2 sortes de robinets. Il y a un robinet qui est dans le jardin. Et ce robinet j'ouvre, on va dire ça coule directement sur la terre. Donc ça c'est évident que même si mon but c'est de me laver les mains, d'accord, où je vais utiliser pour toutes sortes, que je veux boire un verre d'eau, je vais utiliser l'homme échalé, mais en tout cas, le fait d'ouvrir ça sur la terre, ça va directement couler sur la terre, et donc ça va arroser. D'accord? Donc ça, c'est sûr que c'est interdit, même si je n'ai pas l'intention. Pourquoi? Parce que c'est inévitable, et ça va se faire de manière 100%. Donc c'est psychréché dans un interdit de la Torah, c'est à soi. Maintenant, mon robinet, lorsqu'il se trouve chez moi à la maison, et on va dire, celui qui a construit le robinet, il a fait comme ça d'une telle manière que le conduit du robinet va passer dans la maison et après il va se rejeter, il va sortir, comme un genre d'égout comme ça, il va sortir sur la terre. Donc est-ce que je peux utiliser mon robinet chez moi à la maison? Alors là c'est différent. Pourquoi c'est différent? On va voir. Il y a 2 cas de figure. Rappelez-vous la semaine dernière on a parlé, si l'endroit où l'eau arrive, ça tombe sur un endroit, sur une surface qui est très très imbibée d'eau. Est-ce qu'il y a un interdit de zoréa? Est-ce que ça s'appelle arroser? Vous vous rappelez ça de la semaine dernière?
Non.
À la semaine? On avait dit que...
Non, c'est permis.
Que c'est permis. Alors, c'est pas précis. Ça veut dire que c'est interdit, c'est comme ça. On a dit qu'il n'y avait pas d'interdit de la Torah. C'est-à-dire... La melacha de Zoréa, ça ne s'appelle pas une melacha de Zoréa, parce que c'est complètement imbibé. Par contre, on a dit que si l'intention de l'homme est en jetant cette eau-là, elle est que la terre, qu'on rajoute de l'eau sur la terre, c'est un interdit des chachamim. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit de la Torah, mais il y a un interdit des chachamim lorsque j'ai l'intention d'arroser. Si je n'ai pas l'intention d'arroser, c'est moutard, c'est permis. Tout dépend de mon intention. Lorsque c'est un interdit de la Torah, on ne regarde pas mon intention, l'acte a été fait, 100%. Mais lorsque c'est un interdit des chachamim, il faut avoir l'intention d'arroser. Si j'ai l'intention d'arroser et que c'est bien imbibé, c'est interdit par les chachamim. Mais si c'est, j'ai pas l'intention d'arroser, donc c'est permis, même par les chachamim, c'est bon tard. Donc maintenant, venons, on voit le cas. En général, le rov, la majorité des cas, lorsque mon égo, mon tuyau, on va dire, il va sortir. En général, là-bas, toute la semaine, j'utilise mon robinet. Donc là-bas, tout le temps, ça goûte sur l'endroit. Donc l'endroit, il est très, très imbibé en général. Donc je peux utiliser maintenant. Pourquoi? Parce que lorsque je me lave les mains, je n'ai pas l'intention d'arroser. Donc même puisque je n'ai pas du tout l'intention d'arroser, et que là où ça tombe, en général, c'est bien imbibé, donc c'est tout à fait moutard d'utiliser ce robinet. Même s'il y a de l'eau qui va sortir et qui va tomber sur le gazon ou sur les plantes. Pourquoi? Parce que toute la semaine là-bas, j'utilise, ça goûte, et c'est rempli et c'est imbibé, et j'ai pas d'intention. Mon intention maintenant, elle est de me laver les mains, elle n'est pas d'arroser. D'accord? Donc dans ce cas-là, ça sera moutard. Maintenant, si la surface où le tuyau arrive n'est pas imbibé d'eau, alors là, ça va dépendre où est-ce que je me trouve. Si je me trouve chez moi, j'aurai pas l'eau. Si je me trouve chez quelqu'un d'autre, d'accord, chez quelqu'un que je ne connais pas, ou chez un endroit public qui ne m'appartient pas, et je ne suis pas intéressé par le fait de semer, ça sera permis. D'accord? Ça sera permis d'utiliser le robinet, même si je sais que l'eau va passer par le tuyau et va couler et va sortir sur le terrain, sur une surface qui n'est pas imbibée d'eau. Si ça va tomber dans un endroit qui ne m'appartient pas et que ça m'importe, que ça tombe là-bas, que ça arrose ou que ça n'arrose pas, que ça ne m'intéresse pas, c'est permis. Il faut comprendre pourquoi. Alors, je sais très bien que lorsque je vais laver mes mains, l'eau elle va passer par le tuyau, elle va arriver, elle va tomber sur le gazon. Donc je sais très bien que ça va arroser. Pourquoi c'est permis? Alors là, c'est utiliser la huitième notion dont je vous ai parlé dans le cours numéro 7. Ça s'appelle en deux mots psikreshe de lo nichale dans un issour des rabbanan. Arroser dans ce cas précis que je vous parle, c'est-à-dire que j'ai mon lavabo chez moi à la maison et que le conduit passe par la maison et sort dans le jardin, c'est pas un interdit de la Torah. Même si j'ai l'intention d'arroser. Pourquoi? Parce que c'est pas direct. Et rappelez-vous dans les cours d'introduction, pour que ça soit un interdit de la Torah, il faut que ça soit un acte direct. Si mon acte il est indirect, c'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit des Chachamim. Alors, ma Corée.
Je vais détecter pendant ce temps-là, Yona. Ah, Yona est là, c'est bon.
Vas-y. Rappelez-moi où je me suis arrêté, comme ça on va. Voilà, j'étais sur le robinet. D'accord? C'est-à-dire que j'ai un robinet chez moi, j'ai un lavabo chez moi. J'ai un lavabo. Ce lavabo, le conduit du lavabo, c'est-à-dire le tuyau, va continuer dans la maison, va sortir de la maison et va donner directement sur du gazon, sur une surface qui n'est pas imbibée d'eau. Tout à l'heure, on a parlé d'imbibée d'eau, c'est montant. Quand c'est pas imbibée d'eau, alors on a dit que si je suis dans un endroit qui ne m'appartient pas, qui est public, qui est pas, que je ne suis pas intéressé par cet arrosage, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Alors, c'est sûr que ça va arriver, on sait très bien que ça va arriver 100% sur le gazon, ça va arroser. Alors là, premièrement, ça n'interdit les chachamim. Pourquoi? Parce que c'est indirect, c'est pas direct. Deuxième chose, j'ai pas l'intention d'arroser. Lorsque j'utilise mon lavabo, je ouvre mon robinet, je suis pas du tout en train d'arroser. J'ai pas l'intention. Donc j'ai pas l'intention. C'est un interdit des chachamim. Et je ne suis pas intéressé. Ces trois choses-là vont permettre l'interdit d'arroser. Ça, c'est en très très bref le cours numéro 7. On a très très développé ça en long et en large. Donc j'utilise ce principe, ces trois principes. Je ne suis pas intéressé. C'est un interdit des chachamim. Et j'ai pas l'intention. C'est différent. J'ai pas l'intention et je suis pas intéressé. Si je suis chez moi, alors j'ai que deux éléments. C'est un interdit des chachamim. J'ai pas l'intention, mais je suis intéressé. Donc, j'ai pas le droit. Que si je suis dans un domaine où l'arrosage ne m'importe pas. Si je suis chez moi, je peux pas utiliser ce lavabo parce que 100% ça va arroser. Mais rappelez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, la majorité des cas, c'est-à-dire techniquement, quand on a un système comme ça de lavabo où ça tombe, en général, l'endroit est très très imbibé d'eau. Et donc, comme on a expliqué tout à l'heure, lorsque l'endroit est très imbibé d'eau, c'est permis. Même chose à la Khalemasi qui ressemble à ça. Pardon?
Même chose. Rien du tout, c'est moi.
Ah, même chose, je vais donner un autre
bonsoir.
Exemple. Ouais, bonsoir. Je vais donner un autre exemple qui ressemble à ça, le Maasé. Quelqu'un est Yom Tov de Soukot, d'accord? Yom Tov de Soukot. Et il a mis une bâche sur sa souka. Maintenant, il veut enlever sa bâche. En général, autour de la souka, il y a. Bon, si c'est une surface carrelée, il n'y a pas de problème. Mais en général, il y a toujours du gazon, il y a des plantes, il y a des arbres. Donc maintenant, j'ai mis mon plastique, d'accord? Toute la nuit, il a plu. Donc maintenant, mon plastique est mouillé d'eau. Lorsque je veux lever le plastique, Donc l'eau, elle va couler. Où est-ce qu'elle va couler? Sur la terre, sur les arbustes, sur le gazon. Donc mon action ici, elle est directe. On ne peut pas dire que c'est gramma ici. C'est un acte direct. Lorsque je fais descendre la bâche, l'eau va couler. Donc c'est un acte qui est direct. Et donc là, ça dépend. En général, s'il a plu toute la nuit, le parterre est bien, bien imbibé. Donc je n'ai pas l'intention d'arroser, c'est permis. Mais si le parterre n'est pas imbibé, en général, c'est chez moi. Donc là, je dois faire attention avec la bâche. Je ne dois pas faire couler l'eau sur le gazon et sur la terre. En général, s'il a plu toute la nuit, ça, en général, c'est imbibé d'eau. Mais il faut bien préciser si c'est imbibé ou si ce n'est pas imbibé. Si c'est imbibé, il n'y a pas d'interdit lorsque je n'ai pas l'intention d'arroser. Si j'ai l'intention, c'est un interdit des chachamim. Mais lorsque c'est pas imbibé, que la surface est sèche, je dois verser directement de l'eau. C'est 100%, c'est inévitable. Donc c'est interdit. Je ne veux pas dire que je n'ai pas l'intention. Si tu as... Ça, c'est le principe de Enomit Kaven et Psychréché. C'est-à-dire, si la chose va se faire de manière 100%, on ne peut pas dire que je n'ai pas l'intention. La chose va se faire et c'est interdit. Voilà. Ça, c'est, en très bref, la Melacha de Zoréa. Donc, on a complété la suite de la Melacha, la deuxième Melacha qu'on a étudiée la semaine dernière. Maintenant, on attaque la troisième Melacha. Troisième Melacha des 39 Melachot de Shabbat. C'est la suite. Une fois qu'on laboure la terre, qu'on travaille la terre, et une fois qu'on plante, donc on sème. D'accord ? Celui qui plante, il sème. Donc, c'est la melacha de, on l'appelle en hébreu, elle s'appelle kotser. D'accord ? Donc on avait, rappelez-vous, choresh. Choresh, c'est labourer, c'est faire une action qui va favoriser une éventuelle semence. Zoréa, c'est faire une action sur un végétal qui va favoriser la poussée de ce végétal. Kotser, c'est l'inverse. Kotser, c'est un peu l'opposé de Zoréa. Kotser, c'est couper. D'accord ? On va d'abord traduire, après on va expliquer la définition qu'on a l'habitude de faire pour chaque melacha. Kotser, c'est cueillir. Donc, Zoréa, c'est prendre une graine, prendre un arbre et le faire rentrer dans la terre et de le rattacher à sa source vitale, de végétal. Et Kotser, c'est de couper ce lien-là. D'accord ? C'est en fait de cueillir. Ça, c'est la traduction de cueillir. Donc, comme dans toutes les Melachot, on définit la Melacha. Je dis, c'est très important de définir la Melacha pour comprendre le principe de cet acte-là. Si on veut définir cette Melacha, on dira ça comme ça. Couper la source de vie, couper un végétal de sa source de vie. C'est-à-dire, tout végétal, il a une source où il puise de la vie, de l'énergie. De la vie, en fait, comme ça, il peut pousser. C'est la vie du végétal, Tzomeach. Il y a quatre étapes. Il y a Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. Il y a Domem, c'est quelque chose qui est inerte, comme des pierres, comme du bois. Ensuite, il y a une étape au-dessus, c'est Tzomeach. Tzomeach, sa vie. Une plante, c'est quelque chose qui vit. C'est pas comme quelque chose qui est inerte. Après, il y a Chai. Chai, c'est voir l'étape animale. Ça bouge, ça marche, ça a tout un système. Ça, c'est voir le Chai. Et après, le quatrième, c'est l'homme. L'homme, c'est Medaber. La BMA, elle ne parle pas, tout le monde animal ne parle pas. Et l'homme, le monde de l'homme, parle. Pardon ?
Non, je disais que l'homme parle.
Voilà, l'homme parle. Donc on a quatre espèces. Si on veut définir tout ce qu'il y a dans le monde, il y a quatre espèces. Il y a quelque chose qui est inerte. C'est l'eau, c'est les pierres, c'est le bois, tout ce qui est tous les métaux. Ensuite, on a Tzomeach. Tzomeach, c'est tout ce qui est végétal. Après, on a Chai, tout le monde animal. Et après, on a Medaber. Medaber, c'est ceux qui parlent, donc c'est l'homme. C'est la plus haute des espèces sur la Terre, le plus important. C'est pour ça qu'il a été créé en dernier, c'est le plus important qu'il y a. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Pour dire que Tzomeach, il y a une vie. Ça vit une plante. Une plante, c'est quelque chose qui vit. Donc si c'est quelque chose qui vit, donc elle est reliée à une source de vie. Dès que je vais essayer de déconnecter un végétal de sa source de vie, je suis en train de faire la melacha de Kotser. Donc voyez encore une fois, ça c'est des choses que je répète à chaque melachot. Il y a la traduction, il y a la définition. Définition, c'est beaucoup plus vaste qu'une simple traduction. Cueillir, c'est que kotser en hébreu. Donc, le principe de kotser, c'est déconnecter une plante et un végétal de sa source de vie. Donc c'est l'inverse total de Zoréa. Parce que Zoréa, on a donné par exemple, j'ai pris un arbuste qui est complètement détaché avec ses racines, et je le rentre dans la terre. Le fait de le planter dans la terre, ça va, il va vivre. Quand il est en dehors de la terre, c'est une plante qui est morte. D'accord ? Donc maintenant, je fais l'effet inverse. Ça, c'est la melacha de Kotser. Il y a une melacha, dans les 39 melachot, qui ressemble à ça, qui ressemble beaucoup à cette melacha-là. Mais c'est une autre melacha. Elle va être beaucoup plus loin, celle-là, on va l'étudier. C'est une melacha qui s'appelle Gozez. Gozez, c'est tondre, si on traduit. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui se coupe les ongles, quelqu'un qui enlève une peau, qui arrache un morceau de peau, quelqu'un qui se coupe les cheveux, quelqu'un qui tond un mouton. D'accord ? Ça aussi, c'est exactement le même principe. Les cheveux, les ongles, la laine du mouton, elle vit parce qu'elle est rattachée à l'homme. Et en se coupant les cheveux, en se coupant les ongles, en coupant le mouton, je détache la vie. Je le coupe de sa source de vie. Donc c'est exactement le même principe. Seulement, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a Domem, Somer, Chai, Medaber, ça c'est le monde animal, et ça c'est le monde végétal. Donc puisque c'est différent, donc on a fait ça en deux sortes de melachot. C'est deux melachot distinctes. Couper une source de vie de manière végétale, ça sera la melachot de Kotser. Et couper tout ce qui est animal, et en fait l'homme aussi, d'accord, homme ou animal, peu importe, c'est un homme qui se coupe les cheveux ou couper la laine d'un mouton, c'est pareil. Les deux, ils sont attachés à l'homme et sa vie, à l'homme ou à la bête et sa vie. Et lorsqu'on va couper ça, on va couper ça de sa source de vie. C'est exactement le même principe. Ça, c'est melachot Kotser. Et ça, c'est melechet gozez. Donc, rappelez-vous de ça, on va l'utiliser ça par la suite. Et, top, alors on avance. Il y a deux sortes de kotser. Il y a, maintenant on définit, maintenant toutes sortes, on va définir d'abord en principe, comment on va étudier cette melacha. D'abord, on va définir toutes sortes d'actions qui sont interdites par la Torah et qui rentrent sous cette définition. Et après, on va voir quand est-ce que ça diffère. Peut-être que des fois ça va être permis, des fois ça va être interdit. Et par la suite, on va étudier toutes sortes d'interdits des Chachamim, comme j'ai expliqué dans le cours d'introduction, qui découlent de cet interdit de la Torah. On va voir, il y a pas mal d'interdits des Chachamim qui rentrent dans cette Melacha de Kotser. Ça, on va voir par la suite. Donc maintenant, venez, on commence à voir petit à petit les interdits qui sont liés à la Melacha de Kotser. Alors, il y a deux choses. Il y a Kotser et il y a Tolesh. En hébreu, c'est deux mots différents. Kotser, c'est couper, d'accord, on va dire moissonner, on va dire, d'accord, ou k'tsartem et k'tsirat haomer, ou k'tsartem et k'tsirechem, ou k'tsirechem et k'tsirachem, là-bas la Torah elle dit, lorsque vous utilisez avec votre faucille pour couper du blé, alors là-bas la Torah nous dit, lorsque vous couperez du blé, faites attention de laisser une partie du champ pour les pauvres, ça c'est une mitzvah de la Torah, donc la Torah emploie le mot kotser. Et il y a un autre mot qui s'appelle tolesh. Tolesh, c'est cueillir. Quelle différence entre les deux? Alors l'explication est comme ça. Kotser, c'est avec un cli, c'est avec un ustensile. C'est-à-dire, on va dire, le mieux, c'est quelqu'un qui a une moissonneuse-batteuse. Moissonneuse. Il passe avec sa moissonneuse dans son champ de blé. Donc il est en train de moissonner avec son grand keli qui s'appelle le tracteur. Ou je ne sais pas, sa moissonneuse. Il y a quelqu'un qui est plus moderne, moins moderne, et il utilise une faucille. Donc la faucille aussi, c'est un cli. Mais quand il y a une personne qui voit un beau pommier, qui prend, qui cueille une pomme. Donc cueillir une pomme, c'est aussi un interdit de la Torah. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'utiliser l'interdit de la Torah, il n'est pas seulement si j'utilise un ustensile qui est fait pour. Même si je cueille avec ma main, c'est comme ça l'habitude, quelqu'un qui veut cueillir une pomme, la pomme elle était rattachée à l'arbre, en cueillant avec ma main, je l'ai détachée de sa source de vie. Donc cueillir, que ça soit avec ma main ou que ça soit avec un ustensile, les deux, c'est un interdit de la Torah. Seulement ça, c'est un av et ça, c'est une tolda. Av, c'est action père. Tolda, c'est une dérivée. C'est différent quand même. Cueillir une pomme, c'est quand même différent d'utiliser une moissonneuse sur un champ de blé. Mais dans le principe, c'est exactement pareil. Là, c'est du blé qui est rattaché à la terre qui est dans le champ et qui vit, que maintenant on va le couper et qui va plus vivre de manière végétale. Et la pomme aussi, pareil, elle vit sur le pommier, je l'attrape, je le cueille maintenant du pommier. Maintenant, même si, il y a un cas où par contre ça va être un interdit des chachamim. Si je cueille de manière bizarre, c'est-à-dire je prends, on va dire, un ustensile, un ballon d'aguerre, et je vise sur une pomme en ayant l'intention de la faire tomber. Alors ça, c'est un interdit des chachamim. Même si j'ai l'intention de cueillir cette pomme, mais c'est pas comme ça qu'on cueille. La Gemara a dit quelqu'un qui zorek even sur un arbre, et en jetant, ça va toucher le fruit, et le fruit va tomber à cause de ça. Même si moi j'ai l'intention de faire tomber le fruit, c'est pas un interdit de la Torah. C'est un interdit des Chachamim. Pourquoi ? C'est dans les conditions qu'on a étudiées, dans les cours de l'introduction, qu'une chose qui est faite de manière bizarre, c'est pas comme ça qu'on cueille. Donc c'est un interdit des Chachamim. Par contre, quelqu'un qui prend le tronc, il ne va pas prendre le fruit directement, il va prendre le tronc et il va remuer. Remuer très fort le tronc, ou les branches, et en remuant, il va faire tomber plein de fruits. On va dire il a un cerisier, on va dire, d'accord ? Quand on prend un cerisier et qu'on prend la branche et qu'on fait fort comme ça, on remue fort, il y a plein qui vont tomber. Donc mon acte, est-ce que c'est un interdit de la Torah ou pas ? Oui, c'est un interdit de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que même aujourd'hui, les agriculteurs, lorsqu'ils essayent de cueillir, à part le fait de moissonner, en général dans les arbres fruitiers, ils ont une machine qui est spéciale, qui vont s'attacher à l'arbre et faire trembler l'arbre. C'est-à-dire c'est une technique qui est tout à fait normale de cueillir. C'est-à-dire c'est une sorte de cueillir. Il y a cueillir avec la main et il y a cueillir en faisant trembler l'arbre. Donc quelqu'un qui fait trembler une branche, on ne va pas dire que c'est comme le cas de quelqu'un qui va jeter sur le fruit et que le fruit après va tomber. Là, c'est directement remuer l'arbre, remuer les branches avec l'intention de faire tomber les fruits. C'est un interdit de la Torah. D'accord ? C'est un interdit de la Torah qui rentre dans la Melacha de Kotzer. Tu sais très bien qu'en remuant l'arbre et en remuant les branches, les fruits vont tomber. Et donc tu vas déconnecter les fruits de leur source de vie qui est l'arbre. Donc ça rentre dans la Melacha de Kotzer. C'est clair ? Même si mon arbre est sec, mais l'arbre est très sec comme ça et que les fruits sont encore attachés à l'arbre, il y a encore une source de vie, ça sera aussi interdit de les cueillir de cet arbre. Maintenant, si par exemple j'ai une grappe de raisin, d'accord ? Ma grappe de raisin, je veux prendre le raisin de la grappe. Ou bien j'ai dans les dattes, il y a des tiges comme ça, des dattes qu'on les achète de manière naturelle, il y a des tiges et la datte est attachée à la tige. Le raisin est attaché à la grappe. Est-ce que j'ai le droit de prendre ce raisin pendant le Shabbat de la grappe ou le raisin ou le date de sa tige? Alors là, c'est sûr que c'est permis. Pourquoi? Parce que la branche, la grappe de raisin, elle est détachée de sa source de vie, qui est la vigne. On va pas dire que c'est vrai que c'est détaché de la source de vie, mais le raisin est attaché lui-même à la branche. Non. La branche elle-même, elle est morte. Elle est déjà détachée de sa source de vie. Donc il n'y a aucun problème d'apprendre les raisins les raisins ou la date, d'accord, d'enlever les raisins de cette grappe-là. Puisque la grappe n'est pas sur la vigne. Si la grappe serait sur la vigne, donc cette grappe-là, elle prend vie de la vigne, etc. Mais si j'ai détaché cette grappe de la vigne, il n'y a aucun problème de détacher le fruit de la grappe. Le lien qu'il y a entre raisin et la grappe, ce n'est pas un lien de source de vie. Et donc c'est tout à fait moutard, permis de détacher le raisin de grappe ou de date de leur tige. Maintenant, si on est toujours dans cette définition que c'est une source de vie, la Gemara nous dit, c'est intéressant, même si par exemple, on n'a pas besoin qu'il y ait des shorashim, c'est-à-dire des racines. Ouais, on n'a pas besoin qu'il y ait des racines. On n'a pas besoin de déraciner pour que ça soit un interdit de kotser. Même si par exemple, il y a des champignons qui poussent, on va dire comme ça, sur un mur. Et pendant Shabbat, je prends ce champignon du mur. Donc là, apparemment, c'est un peu différent. C'est pas déterrer de la terre. C'est pas cueillir d'un arbre. Je suis en train d'enlever le champignon du mur. C'est pas le mur, c'est pas un endroit où on sème apparemment. Donc est-ce que j'ai le droit d'enlever ce champignon pendant Shabbat ou pas ? La Gemara nous dit c'est strictement interdit, ça rentre dans la définition de kotser. Pourquoi ? Parce que ces choses-là, c'est quelque chose de végétal, un champignon, c'est végétal, on va dire toutes sortes de mousses, toutes sortes de choses comme ça qui poussent de manière naturelle. Leur source de vie, c'est l'endroit où ça s'est développé. Ça veut dire que les champignons, c'est comme ça que ça marche. La Gemara donne l'exemple du champignon. Ça veut dire que le champignon, il se développe. Pas comme tous les autres végétaux qu'on met une graine dans la terre, non. Ça pousse de manière naturelle sur n'importe quoi, là où ça peut s'attacher. Donc lorsque je vais détacher, de sa source de vie, même si on va dire que ça pousse sur un mur. Mais l'endroit où le champignon a poussé, c'est son endroit naturel et c'est là-bas qu'il vit. Donc lorsque je vais détacher ce champignon, je veux rentrer dans la définition de Melechet Kotzer, qui est détacher un végétal de sa source de vie. D'accord ? On avance ? Il y a des questions ? Bon, je suppose que tout est clair, alors on avance. Et quelqu'un maintenant, il veut marcher, donc on va dire, il veut marcher sur un gazon pendant Shabbat. Il veut marcher sur un étendu où il y a de la broussaille, des herbes. Il veut marcher là. Est-ce qu'il a le droit de marcher ? Qu'est-ce que vous pensez ? Il a un étendu.
Oui, je pense que oui.
Mais il a un étendu où là-bas, il y a un grand risque en marchant. Ce n'est pas un gazon qui est bien coupé. C'est un étendu avec plein de broussailles. Il y a des broussailles, il y a des ronces, il y a toutes sortes de choses. Et il veut traverser cet endroit-là. Maintenant, en marchant, il risque d'arracher ces feuilles-là, d'arracher toute cette broussaille. Est-ce qu'il a le droit de marcher là-bas, dans cet endroit ? Qu'est-ce que vous pensez ?
Je pense pas.
Alors oui ou non, décidez-vous. Alors là, je vois qu'il vous manque les... Hein ?
Non, je pense que je... Non, c'est non.
Alors là, ça... Alors je vois que... Donc là, on rentre... Donc on découle de sa source, donc apparemment c'est interdit. Alors si vous avez écouté les cours, alors c'est pour ça que j'ai demandé au début du cours qu'il faut écouter le numéro 7. Parce que dans le cours numéro 7, apparemment c'est permis. Pourquoi ? Pas apparemment, c'est permis. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant je ne peux pas vous expliquer la notion, mais je vous explique la halakha, le principe. À vous d'écouter le cours numéro 7 qui est très important. Lorsque je marche, est-ce que je suis en train de couper mon gazon ? Pardon ? J'ai dit juste.
Je n'entendais pas, donc si tu peux répéter ta phrase.
D'accord. Je suis en train d'analyser mon cas. Je suis en train de marcher dans une broussaille, d'accord ? Il y a toutes sortes de broussailles. C'est possible que j'arrache en marchant. Je veux dire, même pas je marche, je cours. Donc c'est très possible que je risque d'arracher là, d'accord ? Donc maintenant, il y a deux cas de figure. Si on va dire que je ne cours pas, je marche, c'est pas sûr que j'arrache. C'est pas sûr 100%. Maintenant, est-ce que mon intention, elle est d'arracher ou de marcher ? Mon intention, elle est de marcher ou d'arracher les plantes ? Mon intention, elle est de marcher. D'Afi. Maintenant, il y a une action interdite et une action permise. Mon action permise, c'est de marcher. Mon action interdite, c'est d'arracher les plantes. Maintenant, si je marche, on va d'abord étudier le cas où on marche. C'est-à-dire que ce n'est pas 100% que ça va être arraché. Donc, c'est tout à fait permis. Rappelez-vous l'exemple du banc. Si vous vous rappelez dans les cours de l'introduction. On a parlé de quelqu'un qui a un banc et qui veut faire passer son banc d'un côté à l'autre et qui va faire des sillons en tirant le banc. Et ce n'est pas 100% que le sillon va se faire. Ça s'appelle Davar chez Eno Mitkaven. C'est-à-dire que je n'ai pas l'intention. Donc moi, quand je marche, c'est possible ça va s'arracher en route, mais moi, je n'ai pas l'intention. C'est 100%, ce n'est pas 100%. Donc ça, c'est moutard. Ça fait partie, c'est là en fait la huitième condition. La huitième condition qu'une chose soit interdite, il faut qu'on ait l'intention. Lorsqu'on n'a pas l'intention et qu'on fait notre action qui est permise et que l'action interdite ne va pas être 100% faite, c'est permis. Donc j'aurai le droit de passer là-bas sans problème, même si je risque d'arracher. Mais ce n'est pas du 100%. D'accord ?
Est-ce que je peux poser une question ?
Oui, tout à fait, oui. J'entends très mal, encore une fois.
Est-ce qu'on a le droit, le Shabbat,
oui,
dans le même ordre d'idée, de marcher sur le sable qui est à la plage ? On marche sur la plage, avec, donc on déplace du sable, etc. Est-ce que j'ai entendu dire que ce n'était pas permis ?
Quel est le problème de marcher sur du sable ? Quel interdit ici ?
Oui, c'est vrai qu'on a, il paraît que. Je ne sais pas, j'ai entendu. Effectivement, je ne vois pas. Il n'y a rien. On ne détruit pas une fille, on n'arrache pas des broussailles, etc.
Donc il n'y a pas du tout d'action.
Marcher sur la plage de sable Shabbat, ce n'était pas très.
Non, il n'y a aucun problème de marcher sur du sable.
Si les pieds sont mouillés.
Non.
Aucun problème.
Aucun problème de marcher sur du sable. Mais il n'y a pas du tout d'action interdite, ça veut dire ici. Il n'y a qu'une action permise qui est de marcher. Je ne vois pas l'action interdite qui est en même temps de marcher en même temps sur le sable. Dans notre cas, nous, qu'on est en train de traiter, il y a une action interdite qui est couper les végétaux. Donc y a plus, c'est plus intéressant. Quand même, c'est permis, parce que ce n'est pas 100%. D'accord ? Maintenant, on continue. Si je cours... Si, maintenant, par rapport à la plage, on ne peut que marcher sur le sable, bien sûr. On ne peut pas rentrer dans la mer. On ne peut pas se baigner Shabbat sur...
On ne peut pas éventuellement mettre juste les chevilles dans l'eau, juste les chevilles, marcher les chevilles dans l'eau.
Les chevilles, c'est permis,
non,
mais...
C'est juste...
Je parle de rentrer dans l'eau et nager dans l'eau. Ça, c'est un interdit.
Voilà.
D'accord, on n'expliquera pas ça maintenant. On expliquera ça en temps voulu. D'accord. Maintenant, on continue. Où est-ce qu'on était? Oui. Maintenant, si quelqu'un court sur le gazon, on va dire pas du gazon, il court sur un endroit où il y a de la broussaille, il y a des raies, il y a des herbes, il y a des herbes hautes, et il court là-bas. Pourquoi je dis courir? Parce que ça va être 100% qu'il va arracher là-bas les herbes. Est-ce qu'il peut courir ou il ne peut pas courir?
Là, non, pas du tout.
Alors, ça aussi, ça c'est le cours numéro 7. Est-ce que c'est un interdit de la Torah? Si jamais il y a quelque chose qui s'arrache ici. Est-ce que c'est un interdit de la Torah ou c'est un interdit des Rachamim? Est-ce que je rentre? Pardon?
L'interdit des Rachamim.
Pourquoi?
Et parce que, bon, il court, c'est pas sa intention donc d'arracher. Il a
l'intention
également d'arracher.
Non, non.
Mais
je...
tant qu'il arrache quand même.
J'ai pas... J'ai pas demandé est-ce que c'est son intention ou pas son intention. Ça, je suis pas encore arrivé à ça. Je demande, regardez le fait que je suis c'est encore coupé. On était quelqu'un qui court. Donc, il faut d'abord définir l'action qu'il est en train de faire. Est-ce que l'action, je ne regarde pas maintenant, est-ce que j'ai l'intention, ça après on va traiter ça. Est-ce que l'action qu'il est en train de faire en courant d'arracher, est-ce que c'est un interdit de la Torah ou des Chachamim? Ben, c'est un interdit. Pardon? C'est un interdit de quoi? C'est un interdit des Chachamim. Pourquoi?
Ah, c'est ce que j'avais dit.
Ouais, pourquoi?
Parce que bon, bah, sans intention, c'est... Non,
ah, non, oui, ah, non,
on parle pas de tension. Parce qu'il court.
C'est-à-dire? C'est pas comme ça qu'on cueille. On cueille pas avec les pieds, on cueille avec la main, on cueille avec une machine. Donc c'est...
Oui.
C'est chinouille, c'est anormal. Anormal, c'est un interdit des Chachamim. D'accord? Donc maintenant on continue. Ça c'est le cours numéro 7, comme tout à l'heure pour le robinet. 1, j'ai pas l'intention. 2, c'est un interdit des Chachamim. 3, peu importe qu'il y ait un ronce qui est attaché ou qui n'est pas attaché, ça m'importe peu cette histoire. Je veux marcher, je n'ai pas un étendu qui est... Ça m'importe peu cette histoire. Donc, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé par les plantes qui ont été coupées. Je l'ai coupé de manière anormale, c'est un interdit des Chachamim. Je n'ai pas eu l'intention. Ces trois choses-là vont faire que ça va devenir permis. Alors vous n'avez pas très bien compris là ce que je viens de dire. Parce qu'il faut écouter le discours numéro 7. D'accord ? On continue. Donc c'est moutard. D'accord ? C'est permis. C'est moutard. Voilà, on continue maintenant. Et voilà, on a à peu près maintenant vu tous les interdits de la Torah. Donc qu'est-ce qu'on a vu ? Je résume en bref. Plusieurs interdits de la Torah. Couper avec un cli, c'est interdit. D'accord ? Avec un ustensile. Moissonneuse, comment on appelle ça ? La faucille. Arracher avec ma main aussi, cueillir avec ma main, c'est aussi un interdit. D'accord ? Donc faire attention Shabbat lorsqu'on se promène dans un verger et tout, il ne faut pas toucher aux fruits. Ensuite, faire trembler l'arbre, c'est aussi un interdit de la Torah. On a même dit qu'on devient un champignon, même qui pousse sur un, même pas sur la terre, qui pousse sur un mur, qui pousse sur le truc, puisque c'est sa source. Tout endroit, le principe il est, tout endroit qui prend la vie de cette chose-là, et c'est son endroit où il vit. Le détacher de là-bas, c'est l'interdit de la Torah. On a dit, par contre, si c'est une grappe de raisin, le raisin sur la grappe, ça c'est sûr que c'est permis. Parce que la grappe, elle est complètement détachée de sa source de vie. Ensuite, on a vu, comme on dit maintenant, marcher ou courir sur toutes sortes de broussailles. Et même même si c'est 100% que ça va être arraché. Ou bien, même si c'est pas 100%, à plus forte raison, si c'est pas 100% et que c'est juste possible que ça va être arraché, puisque j'ai pas l'intention. D'accord ? Et même dans un cas où c'est 100%, c'est un interdit des chachamim, et je suis pas intéressé, tout ça, ça va me faire, ça va être permis, ça va être moutard de marcher sur ce boussin. Maintenant, on va passer aux interdits des chachamim. Alors là, il y a plusieurs, on va rentrer dans plusieurs détails, que ça, on a vu maintenant en bref les interdits de la Torah. Maintenant, on va voir les interdits des chachamim. Ça aussi, on a parlé dans les interdits des chachamim, rappelez-vous. Dans les chachamim, nos sages, ils nous ont fait toutes sortes d'interdictions, de barrières pour ne pas arriver à transgresser un interdit de la Torah. Donc là, si par exemple je me balade dans mon petit jardin, on va dire, et il y a des hadassim, ouais, des myrtes. Maintenant ça sent très bon, il y a des lavandes, des myrtes, d'accord, toutes sortes de plantes comme ça, des bessamim, des bons qui sont bons. Et je veux sentir. Maintenant, ma myrte elle est attachée à la terre. Est-ce que j'ai le droit de sentir ou pas? Est-ce que j'ai le droit de sentir? Le fait de sentir, ça ne rentre pas du tout dans l'interdit de la Torah. D'accord? Donc j'ai le droit de sentir. C'est-à-dire, on ne va pas dire que le fait de sentir, peut-être que ça va m'amener à cueillir. Ça, non. Donc j'ai le droit de sentir. J'ai même le droit de le toucher avec mes mains. J'ai le droit d'approcher de ça de mon nez, j'ai le droit de le bouger, j'ai le droit de le déplacer même avec mes mains. C'est pas mouktsé. On va voir en temps voulu aussi, c'est pas mouktsé. D'accord? Donc on a le droit de sentir, il n'y a pas de problème. Par contre, si je passe à côté, on va dire, d'un... Maintenant c'est l'été, là, on mange des pêches. À côté d'un arbre, d'un bon pêcher comme ça. Et c'est une bonne odeur. Et je veux sentir l'odeur des pêches. Alors là, les chachamim, ils ont interdit de sentir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sent un fruit, on va être très amené à le cueillir et à le manger. L'odeur du fruit, elle va... Les chachamim, ils connaissent bien la nature de l'homme. Lorsqu'on sent un fruit qui sent très bon, on va être très... On peut souvent être amené à vouloir le manger. Maintenant, même si je le mange avec ma bouche comme ça et que je ne le cueille pas, c'est aussi interdit. Peu importe, il n'y a aucune différence. C'est peut-être un interdit de chachamim. Mais en tout cas, manger directement sur l'arbre, l'endroit que j'ai croqué, je l'ai détaché de sa vie, de sa source vitale. Pas besoin de cueillir tout le fruit pour faire l'interdit de cueillir. Même si je mange un morceau du fruit, c'est aussi interdit. Donc, puisque je vais être amené à sentir un bon fruit, les chachamim ont institué une bracha spéciale là-dessus. À noten reartov baperot. Que le Jourou donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc, lorsqu'on va sentir ces fruits-là, on risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc, chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, une fois que je sens, il n'y a que sentir, il n'y a pas quelque chose d'autre. On ne mange pas ces fleurs. Donc, il n'y a que sentir. Donc, sentir lorsqu'ils sont attachés, tu sens tout à fait bien. Il n'y a pas quelque chose d'autre. De peur qu'on risque de cueillir un message chez soi, ça, chachamim, on craint pas une chose pareille. L'homme, il sait que c'est Shabbat quand même. Mais lorsque c'est un très bon fruit qui a une très bonne odeur, on va être tenté à le manger. D'accord? Donc, sentir un bon fruit, on ne peut pas sentir, de peur qu'on le cueille. Donc, ça rentre dans les interdits des chachamim, qui sont en fait les barrières pour ne pas transgresser un interdit de la Torah. Tandis que sentir des bonnes plantes, d'accord, des plantes, des fleurs, des... toutes sortes de végétaux comme ça qu'on ne mange pas, c'est permis de sentir pendant Shabbat, même lorsque c'est attaché au sol. Et maintenant, on va arriver à deux interdits. Je ne sais pas si on va avoir le temps aujourd'hui de traiter ça, peut-être on va essayer pour la semaine prochaine. Mais je vais commencer à parler de ça et on va développer ça la semaine prochaine. Il y a deux interdits des chachamim. Et ces interdits où il y a beaucoup de détails, d'accord, et c'est assez pratique. Deux interdits que Chachamim ont interdits qui sont liés. Donc, encore une fois, lorsque je dis un interdit des Chachamim, ça n'a rien à voir avec la définition de la Melacha. C'est quelque chose qui va m'amener à transgresser éventuellement. Donc, Chachamim, on fait une barrière, on dit ça, tu fais pas. Donc, sentir un fruit, on vient de voir maintenant. Deuxième chose, utiliser un arbre. C'est-à-dire, on va expliquer, on va détailler bien sûr. Mais, utiliser un arbre pendant Shabbat, toutes sortes d'utilisations, on va détailler ça. Par exemple, grimper sur l'arbre, s'appuyer très fort sur l'arbre, Je sais pas moi, quelqu'un il va mettre une balançoire directement sur l'arbre, il va faire une balançoire. Les fils, elles tiennent directement sur la branche d'arbre. Et il y a un objet qui est sur l'arbre, il veut le monter sur l'arbre, il veut le faire descendre de l'arbre. Toutes sortes d'utilisations d'un arbre, Chachamim ont interdit le jour de Shabbat et Yom Tov. D'accord, Shabbat et Yom Tov, l'homme. C'est interdit. Pourquoi? Quel est le problème? Quel est le problème d'utiliser un arbre? Quel est le problème de grimper sur un arbre, de monter, de descendre? L'action, il n'y a rien, c'est pas du tout, il n'y a pas d'interdit. Seulement, on peut être arrivé en grimpant, en montant, en utilisant, à arracher une branche. Et donc, arracher une branche, il faut bien comprendre, la définition de Melechet Kotser, c'est pas seulement si c'est un fruit, comme on a parlé, ou bien un épi de blé. Toute chose qui vit, donc même si c'est une petite brindille qui est rattachée à l'arbre, et que je l'ai fait tomber de l'arbre, et bien ce petit morceau de bois là, même s'il est infime et même s'il est tout petit, il puise sa vie de l'arbre. Donc en le coupant, en le faisant tomber de l'arbre, je fais la melacha de Kotser. Donc Rachamim m'ont dit, on n'utilise pas un arbre pendant Shabbat. Alors regardez jusqu'où ça va, la xéra de Rachamim. Mara nous dit comme ça, que si jamais quelqu'un veut faire une soukha pendant Yom Tov, et il n'a pas de soukha, la seule soukha qu'il a, c'est une cabane qu'il a fait sur l'arbre. D'accord, il y en a qui construisent des cabanes comme ça, sur les arbres. Donc il a construit une belle cabane, une belle soukha comme ça. Bon, comme on voit le scar, il ne peut pas utiliser les feuilles d'arbre. Il s'est tout arrangé pour qu'il y ait un espace. Il a fait une belle soukha comme ça, avec un vrai scar kasher. Seulement, toute sa soukha, elle est sur l'arbre. Alors, Chachamim, ils ont dit, vaut mieux qu'il n'accomplit pas la mitzvah de soukha, plutôt qu'il monte sur l'arbre. C'est-à-dire que lorsqu'on a interdit de monter sur l'arbre, c'est même pour faire une mitzvah de la Torah qui est mangée dans la soukha. Pourquoi? Chachamim ont interdit. Même Chachamim, ils ont une force, même d'annuler des interdits de la Torah pour maintenir leur interdit à eux. Ça, c'est la force de croire qu'ils ont les Chachamim. Pourquoi? Parce que la Torah a donné la force aux sages d'interdire des choses, même si, quitte que ça peut annuler des fois une mitzvah passée de la Torah. D'accord? Donc, quelqu'un qui a une soukha, il pourra l'utiliser à Chol HaMoed. Mais Shabbat Chol HaMoed ou Yom Tov, il ne pourra pas monter sur l'arbre et s'asseoir dans sa soukha, parce qu'il utilise l'arbre. Et quel est le rapport avec Melechet Kotser? C'est qu'en montant ou en utilisant l'arbre, on risque d'arracher comme ça, ou un fruit, ou même une feuille. D'accord? Même s'il y a une feuille qui tombe de l'arbre, c'est Melechet Kotser. Ou bien même en utilisant, d'accord? Il a besoin de s'appuyer très fort sur l'arbre, il risque de casser une branche. Donc, c'est interdit d'utiliser l'arbre. La semaine prochaine, on va développer bien toutes les sortes d'utilisation qu'il y a sur l'arbre. Il y a beaucoup de détails. Deuxième interdit qui rentre dans cet interdit des Chachamim, c'est chevaucher sur une bête. D'accord? C'est-à-dire, je veux chevaucher sur un cheval pendant Shabbat, on va dire. Est-ce que j'ai le droit de monter sur un cheval pendant Shabbat? Hein?
Mais non.
Pourquoi? Quel
problème? Parce que vous venez de dire que c'est la deuxième interdiction.
Oui, mais pourquoi? Quel est le problème? Quel est le problème de monter sur un cheval?
Ben, on pourrait lui faire mal, je sais pas.
Non, ça n'a rien à voir avec Shabbat, ça même en semaine on risque de lui faire mal. Non, on n'a pas le droit de faire mal à une bête, c'est Tsar Balechaim. Mais chevaucher un cheval, ça lui fait pas mal, c'est fait pour. Donc on peut monter, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdit de Shabbat.
C'est que la bête risque d'écraser ou d'arracher en chevauchant donc des plantes.
Alors c'est intéressant ce que vous soulevez ici. Mais il n'y a aucun problème qu'une bête mange. Une bête qui veut brouter, alors je n'aurais pas le droit de la faire brouter pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'elle va manger pendant Shabbat? C'est-à-dire, si ma bête à moi, elle broute.
Piétiner plutôt.
Même piétiner? Même piétiner, ça revient au cas qu'on a dit tout à l'heure, marcher. J'ai pas l'intention, c'est des rabananes. Là, c'est encore plus loin, c'est le cheval, c'est pas moi. Et même si elle broute ou même si elle piétine, c'est permis. Donc pourquoi c'est interdit de chevaucher sur un cheval, par exemple, pendant Shabbat?
L'animal, il est impur, le Shabbat?
Quoi?
Est-ce que l'animal, il est impur, le Shabbat?
Non, l'animal, il est impur toute la semaine. Le cheval, c'est impur. Mais ça n'a rien à voir. Impur, ça, on n'a pas le droit de manger. On a tout à fait le droit de chevaucher un animal impur.
Parce qu'on risque de tomber et de se faire mal.
Ah, ça, c'est même en semaine, alors. Tomber et se faire mal, c'est même en semaine. Si quelqu'un, il n'a pas fait des cours d'équitation, il aura un problème même en semaine.
D'accord. Je peux dire, samedi, moi je ne sors pas. C'est le repos qu'on fait.
Alors il faut comprendre. Alors le repos, on a dit dans les cours d'introduction que ça n'a rien à voir avec la Shmira de Shabbat, le repos. C'est une très mauvaise définition de garder le Shabbat. Shabbat, c'est pas dire se reposer. Shabbat, c'est dire ne pas commettre des melachot. D'accord ? Donc ici, apparemment, il n'y a pas de melacha. Seulement, les chachamim ont interdit de chevaucher sur une bête. Pourquoi ? Parce que quand on veut chevaucher une bête, on a besoin de prendre un bâton pour la faire, pour la guider. Et donc, on risque d'être amené à prendre toutes sortes de bâtons, toutes sortes de brindilles, toutes sortes de trucs à arracher pour chevaucher la bête. Et donc, on rentre dans un interdit des chachamim, qui en lui-même, aucun problème, seulement chachamim ont interdit de peur que j'arrache d'un végétal. Moi, j'arrache, celui qui chevauche, pas la bête. Donc, et apparemment, ceux qui chevauchent à l'époque de la Gemara, ou bien à notre époque, là, quelqu'un qui a besoin, toujours, un bâton, c'est très utile lorsqu'on a un cheval, ou lorsqu'on a un chamor. Très utile d'un bâton pour le faire avancer, pour donner des petits coups, pour la faire avancer. Donc, ces chachamim, ils savent que l'homme va être très amené à arracher toutes sortes de brindilles, de bâtons, de trucs pour diriger la bête. Et donc, on rentre dans la melacha de kotser. D'accord ? On rentre dans la melacha de kotser qui est détacher quelque chose de la source de où ça prend vie, puisqu'on va arracher le bâton. Donc, c'est encore une fois. D'accord ?
Donc, s'il vous plaît,
oui.
Indépendamment de ce dont vous parlez tout de suite, est-ce qu'on a le droit de le Shabbat parce qu'il est
moukassi. Ah. Alors.
Je vous pose la question parce qu'à un moment donné, j'ai eu un chien par l'intermédiaire de mon frère qui avait son chien et était donc à la maison et le Shabbat m'avait dit qu'il ne fallait pas toucher les animaux, c'était impur ou moukassi. Donc, bon, maintenant je n'ai plus ce chien, mais je pose quand même la question.
Alors, d'après, je ne suis pas sûr 100%, d'après mes souvenirs, je sais que si c'est quelque chose qu'on peut déplacer, on ne peut pas. C'est-à-dire, un chien. On le déplace, on peut le prendre et le lever. Un cheval, on ne peut pas le lever, on ne peut pas le déplacer. Donc, un moukhtse, d'accord, ça veut dire comme ça. Toucher, par exemple, je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Toucher une voiture, est-ce que j'ai le droit de toucher une voiture au Shabbat ?
Oui, si on ne la déplace pas.
J'ai le droit de toucher une voiture. Pourtant, une voiture, elle est moukhtse. Une voiture, c'est moukhtse. Moukhtse, il faut développer aussi ce que c'est moukhtse. Je suppose que vous savez c'est quoi moukhtse. Mais moukhtse, c'est toute chose que Khachami ont interdit de déplacer. Donc, il y a une règle qui dit comme ça. C'est-à-dire, les ba'alei chayim, c'est-à-dire tous les animaux, sont mouktsé le jour de Shabbat. Pas parce que c'est impur, peu importe pur ou impur. Pur ou impur, c'est que lorsqu'on passe au manger. D'accord ? Tout ce qui est animal pur et animal impur, c'est lorsqu'on parle à manger. Manger, on ne peut pas manger un animal qui est impur. Mais si on ne mange pas, toutes sortes d'utilisations, il n'y a pas de problème. D'accord ? Seulement, on parle maintenant de déplacer un animal. Alors, déplacer un animal, c'est mouktsé. Mais on ne parle que des animaux qu'on peut déplacer. Donc si c'est un cheval ou si c'est une vache, on ne peut pas déplacer une vache. Une voiture, on ne peut pas déplacer une voiture. Donc toute chose, on ne peut pas déplacer, Rachamim m'a interdit de déplacer, pas de toucher. Donc quelque chose qu'on peut déplacer, alors on ne touche pas aussi, parce qu'on est peut-être très amené à déplacer, ça rentre comme, c'est comme déplacer. Mais quelque chose qu'on ne peut pas déplacer, comme une cheval, comme une voiture, comme un, d'accord ? Ça on peut toucher. D'accord ? Voilà. Donc, ça c'est les titres, on va voir ça la semaine prochaine de Zot Hachem. C'est les titres, c'est deux choses. Utiliser un arbre et se mettre sur chevaucher toutes sortes de cheval ou d'âne, d'accord ? Ces deux choses-là sont interdites par les Chachamim. Utiliser un arbre, c'est parce qu'on va être amené à arracher de cet arbre. Et chevaucher sur une bête et sur une BMA, c'est on risque de couper, d'arracher un petit morceau de brindille ou un petit morceau de bois pour diriger la bête. Donc ça rentre dans les interdits des Chachamim. Il y a beaucoup de détails, on va voir ça la semaine prochaine. Troisième interdit des Chachamim qu'on a vu, c'est sentir un fruit quand ce fruit est attaché sur l'arbre. D'accord ? Tandis que sentir une plante, bessamim, toutes sortes de fleurs, de plantes, sentir, même si c'est attaché, on ne va pas être amené à les cueillir. Et donc là, c'est permis. Ça, c'est les trois interdits qui découlent de la melacha de kotser, qui en des définitions, on parle de melacha de kotser, c'est détacher l'inverse de zoréa, détacher quelque chose de végétal de sa source, de déconnecter, on va dire comme ça, déconnecter un végétal de sa source de vie. Ça c'est la définition de kotser, la troisième des melachot, des 39 melachot. Voilà. C'est bon, c'est clair, il y a des questions ?
Oui,
Si vous avez des questions sur les cours, vous pouvez écrire, vous pouvez contacter Daniel, alors peut-être que moi je lis après les questions, parce que c'est... D'accord, c'est quelque chose qui n'a pas été compris dans les cours, c'est des questions qui sont liées à ce que j'ai expliqué cette semaine ou les autres cours, n'hésitez pas.
Je vais mettre un formulaire pour poser des questions directement dans les cours sur le site. Voilà, merci beaucoup pour tes failles.
Shavua Tov.
Merci beaucoup, Shavua Tov. Merci.
Et puis je vous contacterai tous pour un nouveau système à la rentrée.
Tout à fait, merci beaucoup. Donc là, la semaine, dimanche prochain, il
n'y
aura plus.
Les Chachamim ont institué une bracha spéciale là-dessus. A noten reartov baperot. Que Jouhou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim ont institué une bracha spéciale là-dessus. A noten reartov baperot. Que Jouhou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim ont institué une bracha spéciale là-dessus. A noten reartov baperot. Que Jouhou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim ont institué une bracha spéciale là-dessus. A noten reartov baperot. Que Jouhou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim ont institué une bracha spéciale là-dessus. A noten reartov baperot. Que Jouhou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim ont institué une bracha spéciale là-dessus. A noten reartov baperot. Que Jouhou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim ont institué une bracha spéciale là-dessus. A noten reartov baperot. Que Jouhou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim ont institué une bracha spéciale là-dessus. A noten reartov baperot. Que Jouhou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim ont institué une bracha spéciale là-dessus. A noten reartov baperot. Que Jouhou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim ont institué une bracha spéciale là-dessus. A noten reartov baperot. Que Jouhou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim ont institué une bracha spéciale là-dessus. A noten reartov baperot. Que Jouhou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim ont institué une bracha spéciale là-dessus. A noten reartov baperot. Que Jouhou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, Les plantes, tout ça, les Chachamim nous ont institué une bracha spéciale là-dessus. À Noten Reartov Baperot. Que le Jourou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc, je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc, Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim nous ont institué une bracha spéciale là-dessus. À Noten Reartov Baperot. Que le Jourou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc, je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc, Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim nous ont institué une bracha spéciale là-dessus. À Noten Reartov Baperot. Que le Jourou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc, je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc, Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim nous ont institué une bracha spéciale là-dessus. À Noten Reartov Baperot. Que le Jourou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc, je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc, Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim nous ont institué une bracha spéciale là-dessus. À Noten Reartov Baperot. Que le Jourou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc, je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc, Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim nous ont institué une bracha spéciale là-dessus. À Noten Reartov Baperot. Que le Jourou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc, je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc, Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim nous ont institué une bracha spéciale là-dessus. À Noten Reartov Baperot. Que le Jourou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc, je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc, Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim nous ont institué une bracha spéciale là-dessus. À Noten Reartov Baperot. Que le Jourou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc, je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc, Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim nous ont institué une bracha spéciale là-dessus. À Noten Reartov Baperot. Que le Jourou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc, je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc, Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim nous ont institué une bracha spéciale là-dessus. À Noten Reartov Baperot. Que le Jourou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc, je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc, Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça, les Chachamim nous ont institué une bracha spéciale là-dessus. À Noten Reartov Baperot. Que le Jourou, il donne une bonne odeur dans les fruits. Il y a des fruits qui sont très bons. Donc, je pense qu'on va sentir ces fruits-là. On risque d'être amené à le manger, à le cueillir et à le manger. Donc, Chachamim ont interdit de sentir. Par contre, les plantes, les fleurs, les plantes, tout ça,